Radio Kapi. Oh,
Kapi. Les informations, Belinda Boufouma.
L'image du député national est ternie aujourd'hui par les 21 à 33 000 dollars qu'il touche chaque mois, ce au détriment de la population qui croupit dans la misère. Pour réhabiliter cette image, le coordonnateur du bureau de liaison de la SENCO avec le Parlement plaide pour l'instauration d'une démocratie participative. Maître Jean-Paul Moulianga est l'invité de ce journal. Ituri, 70 sites miniers d'exploitation d'or fonctionnent illégalement dans la réserve de Fona Okapi, RFO à Mambasa. Information révélée hier par la RFO dans un atelier. L'organisation qui a publié ce résultat après les recherches tire la sonnette d'alarme sur les conséquences désastreuses de cette exploitation dans un espace protégé. Et puis, Kinshasa accueille dès aujourd'hui un colloque international axé sur le concept Une Santé, One Health, organisé sous les auspices du ministère de la Santé publique. Ce colloque s'inscrit dans la perspective de la mise en place de l'Institut One Health pour l'Afrique à Kinshasa. Madame, Messieurs, bonjour. L'Assemblée nationale est l'institution qui a le plus de pouvoir de légiférer et de contrôler pour booster le développement et améliorer les conditions de vie des Congolais. Malheureusement, les députés torpillent ce rôle constitutionnel en s'élançant dans l'affairisme politique. C'est ce que déplore le coordonnateur de la dynamique pour le vigile du mandat. Yves Biasalou invite Vital Kamerhe, en sa qualité de président de l'Assemblée nationale, ainsi que l'ensemble de son bureau, à s'investir pour réhabiliter l'image des parlementaires en assurant la justice distributive. Pour sa part, le secrétaire exécutif de la dynamique de contrôle citoyen des activités de représentants du peuple estime que l'image des députés nationaux s'est détériorée du fait qu'ils utilisent leur pouvoir constitutionnel pour leurs intérêts égoïstes au détriment de leurs électeurs. Michel Kifindangoy.
S'octroyer 21 000 dollars alors que les militaires et les enseignants ont moins de 100 dollars est une violation flagrante des articles 56 à 59 de la Constitution et constitue des hautes trahisons. Yves Biasalou, coordonnateur de la DIVMA.
Les députés ont le pouvoir de voter les lois, d'installer le gouvernement, de le contrôler, de lui allouer un budget, de sanctionner le gouvernement lui-même. Comment on peut allouer 21 000 dollars à un député? Mais qui ne plaide pas pour que le militaire, l'enseignant et l'autre puissent aussi avoir plus d'argent que ce qu'il perçoit actuellement.
Vital Kamerhe et son bureau ont donc l'occasion de réhabiliter l'image ternie de l'Assemblée nationale, estime le secrétaire exécutif de la DICARP, Pépé Kifou.
Il faut retravailler l'image ternie en votant les lois. Un budget qui va répondre aux attentes de la population. Le président de l'Assemblée nationale doit travailler avec la commission suivi et évaluation des lois. Cette commission existe, mais les lois ne font qu'être produites sans toutefois être exécutées. Ça ne pose problème.
Le coordonnateur du bureau des liaisons de la SENCO avec le Parlement plaide plutôt pour l'instauration d'une démocratie participative afin d'amener les parlementaires à privilégier les intérêts de leurs électeurs.
Par ailleurs, la population du Nord Kivu attend un plaidoyer efficace et surtout le retour de la paix dans la province. C'est entre autres réactions exprimées hier à Goma au lendemain de l'élection sénatoriale dans cette province. Certains groupes sociaux, notamment le Conseil communal de la jeunesse de Karisimbi, les femmes et la société civile urbaine, demandent à leurs sénateurs élus, une fois confirmés, de faire parvenir leurs préoccupations au niveau national. Ces préoccupations sont notamment l'insécurité et le chômage. Marion Gavo, président de la société civile urbaine, et Claude Rougo, représentant de la jeunesse, s'exprime tour à tour au micro de Sifa Maguru.
La population de la province du Nord Kivu attend de ses sénateurs un processus de retour de la paix dans la province du Nord Kivu. Nous ne voulons pas qu'ils puissent continuer à aller jouer les jeux de leur parti politique, mais qu'ils soient les vrais porte-parole de la population et qu'ils influencent par leurs tâches régaliennes que le gouvernement puisse actionner et au niveau politique, diplomatique, opérationnel, la fin de la guerre, que la population rentre dans leurs entités et qu'on puisse mettre fin aux rebelles M23, également anéantir les ADF qui sévissent en province du Nord Kivu, surtout dans la partie Est.
Nous, en tant que conseil communal de la jeunesse, l'encadrement des jeunes serait aussi parmi le monde qui ronge la ville de Goma sur le plan à sécurité. Une fois l'autorité songe à l'encadrement des jeunes, peut-être le banditisme urbain pourrait baisser.
La population du Nord qui vous dit attendre l'application de tous les projets de société et visions que ces élus ont présentés lors de leur discours de campagne. Comme vous le savez, les élections sénatoriales se sont déroulées dans quelques provinces du pays. Dans la province de l'Équateur, parmi les élus se trouve Jonas Munkamba Kadiatanzemba, un nonantenaire qui occupe la scène politique congolaise depuis les années qui ont précédé l'indépendance jusqu'à ce jour. Jean Gandouf nous présente son portrait, lui qui est en passe de devenir le président du bureau provisoire du Sénat vu son âge.
Jonas Munkamba a soufflé sur ses 93 bougies il y a plus de 4 mois. Originaire de l'espace Grand Kasaï, il est diplômé en sciences politiques et administratives de l'Université catholique de Louvain en Belgique. Sous le règne du maréchal Mobutu, il a assumé de nombreuses responsabilités, notamment ambassadeur en Ouganda, en Suisse, au Royaume-Uni et en Italie. Il était aussi gouverneur de l'Équateur. Lors des élections de 2006, Jonas Munkamba s'est présenté comme candidat à la présidence de la République sous le label de son parti politique dénommé Alliance des démocrates congolais. À l'avènement de Félix Tshisekedi à la tête du pays, son parti s'est allié à l'UDPS. Malgré son âge avancé, Jonas Munkamba se dit toujours disposé à servir son pays. C'est ainsi qu'il a opté pour le Sénat et a porté son dévolu sur l'électorat du Grand Équateur, l'espace où il a écrit une belle page d'histoire en tant que gouverneur en y laissant des traces. Et c'est justement là qu'il s'est fait élire comme sénateur avec 4 voix. Signalons qu'il avait aussi dirigé la minière de Bakwanga, Miba en Mbujimayi pendant plus de 10 ans. Jonas Munkamba était aussi président du Daring Club Motema Pembe, anciennement appelé Cercle Sportif Imana. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Nous venons de l'entendre, Jonas Munkamba, élu sénateur, est plus âgé que l'actuel président du bureau d'âge du Sénat, qui était le doyen d'âge au moment de l'ouverture de la session inaugurale de la Chambre haute du Parlement. Qu'adviendra-t-il alors? Pascal Kindwelo, l'actuel président du bureau provisoire du Sénat, va-t-il céder son fauteuil à Jonas Munkamba? D'après Gary Sakata, professeur de droit et député national, il ne sera pas question de changer de président du bureau d'âge pour des raisons de stabilité institutionnelle. Gary Sakata le dit au micro de Michel Kifindangoy.
En principe, le nom du doyen d'âge ainsi que de moins âgé sont arrêtés et connus au jour de la séance inaugurale qui est présidée par le secrétaire général. C'est celui qui doit continuer à exercer les fonctions de président du bureau d'âge. Et ça, c'est prévu à l'article 11 du règlement intérieur actuel du Sénat. Le cas possible de remplacement du président du bureau d'âge n'est possible qu'en cas d'empêchement définitif ou prolongé de la part de ce président du bureau d'âge ainsi que des moins âgés. Auquel cas l'on reviendrait à nouveau et l'on chercherait qui est en ce moment-là le plus âgé. Que l'on validait une nouvelle personne qui est soit plus âgée, soit moins âgée, ça ne contribuerait pas à la stabilité de l'institution Sénat. Donc on devait laisser les choses dans le statu quo tel qu'actuellement parce qu'au jour de la séance inaugurale, c'est elle qui a été considérée comme étant le plus âgé.
Je vous le disais en titre, en Ituri, 70 sites miniers d'exploitation d'or fonctionnent illégalement dans la réserve de Fona Okapi dans le territoire de Mambasa. Nous sommes à 165 km de la ville de Bunia. Ces chiffres sont publiés par le responsable de la RFO. C'était hier au cours d'un atelier de présentation des résultats de recherche menés par l'organisation Wildlife Conservation Society. Cette organisation tire la sonnette d'alarme sur les conséquences désastreuses de cette exploitation qui détruit la faune et la flore dans cet espace protégé. Ézéchiel Mouzalia.
La réserve des Fona Okapi est envahie par des creuseurs artisanaux qui exploitent des minerais sous la bénédiction de certains hommes armés dans le territoire de Mambasa. Rodrigue Kiluka, coordonnateur des parties prenantes de l'industrie minière de la RFO, indique qu'environ 70 sites ont été identifiés dans et autour de la RFO où des creuseurs artisanaux exploitent de l'or dans l'illégalité.
L'impact est énorme. Ils abattent tout, que ce soit protégé ou autre. Ils font la chasse. Ils changent même des lits des rivières. Ces gens, ils utilisent des produits chimiques, le mercure, la cyanure, sans aucune précaution.
Les acteurs forestiers et miniers demandent au gouvernement provincial de prendre des actions urgentes pour protéger ce patrimoine mondial. Ils les invitent aussi à tout mettre en œuvre pour assurer la traçabilité de l'or par certains étrangers et qui suscite des convoitises des hommes en armes pour détruire l'environnement. L'un d'eux.
Cela n'a pas sa raison d'être. Il y a certaines sociétés qui ont, par exemple, des permis d'exploitation et ils travaillent là-bas, dans une aire protégée. Ça constitue déjà une contravention à la loi.
L'autorité provinciale envisage d'effectuer un contrôle rigoureux dans ces secteurs en identifiant tous les creuseurs artisanaux dans ces sites en traçant les limites de cette réserve protégée. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Et puis cette mise au point de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé ARSP, ceci après que la GECAMINE, actionnaire d'Antenk et Fungurume Mining, s'est opposée à la vingtaine d'entreprises sous-traitantes recommandées par l'ARSP à cette société minière qui exploite le cuivre dans le Lualaba. L'ARSP rappelle à l'ordre les autorités de la GECAMINE sur ce qu'elle qualifie d'exclusivité de ses prérogatives légales sur la sous-traitance et le développement du contenu local. Cette réaction est contenu dans une lettre rendue publique hier. Dans cette correspondance adressée au directeur de la GECAMINE, le numéro 1 de l'ARSP précise que la GECAMINE est une société commerciale dont le but est notamment la recherche et l'exploitation des gisements miniers et de ce fait, la GECAMINE n'a pas de prérogatives particulières pour gérer les activités de la sous-traitance, explique Miguel Cachal-Katembe. C'est ainsi qu'il demande à la GECAMINE d'éviter de bloquer la réalisation de la vision du chef de l'État, celle de promouvoir l'accès des entrepreneurs congolais au marché jadis occupé par des entreprises sous-traitantes non éligibles, précise Miguel Cachal-Katembe. Ici à Kinshasa, le marché de Matete a fonctionné hier, du moins dans ses parties non touchées par l'incendie. Dans la partie où le feu s'est déclaré dans la nuit de dimanche à hier lundi, l'émotion et le désespoir s'élisaient sur les visages. Des dépôts sont partis en fumée avec des marchandises qui nourrissaient des familles entières. Aussi touchés, les étalages voisins ainsi que le centre des jeunes de Matete voisin au marché. Suivez ce reportage de Mnosa Yamasiki, Miradi Mfwengi et Moïse Lindombe, rendu par Vicky Odiambala.
Certaines propriétaires de ces biens observent l'heure perdue des hommes qui, sous les cendres encore tièdes, tentent de récupérer des caracas des malles vides qui, les week-ends encore, étaient pleins de panne neufs. Elle lance un SOS.
Mon commerce représentait tout pour moi. Ça me permettait de me prendre en charge. Tout est parti. J'ai mal. Je suis encore sous le choc. C'est notre mort. Qui va nous faire sortir de ce cercueil qui a pris feu? Aidez-nous, s'il vous plaît, autorités, chef de l'État. Si rien n'est fait, ces mamans risquent de mourir sous peu suite à ce choc.
Également touché, le centre des jeunes de Matete, un centre de formation et d'encadrement de la jeunesse. Toutes ces 5 salles et tous les matériels sont détruits. Espérance Mondi, la responsable.
Le dégât est énorme. Il n'y a rien à récupérer, rien du tout, rien. Nous lançons vraiment un appel à tous les partenaires, à toutes les autorités, au gouvernement de notre pays. Vraiment, nous sommes dans le besoin. Nous savons où aller.
Les autorités communales sont passées sur place. Toutes disent avoir mis en place une commission qui va inventorier les dégâts et les sinistrés.
Direction le Kasaï central. Depuis quelques mois, la ville de Kananga n'est pas approvisionnée par les wagons de la SNCC à la suite de l'état actuel de la voie ferrée qui non seulement est vétuste mais est aussi jonchée par des têtes d'érosion. Les dépôts sont presque vides et la quantité de maïs dans la ville est amenée par les transporteurs à vélo communément appelés Bayanda. Une situation que le comité des demandeurs de maïs dénonce. Il appelle l'état à résoudre ce problème au plus vite. C'est donc une série de reportages que nous débutons aujourd'hui avec François Kadima.
Alors que nous sommes pendant la période d'abondance de maïs, les dépôts sont presque vides à Kananga. Les maïs stockés à Mweka, Ilebo et d'autres coins ne peuvent pas être acheminés sur la ville. Raison, les mauvais états de la voie ferrée et les têtes d'érosion. Les wagons avec beaucoup de charges n'arrivent pas à transporter et amener du maïs à Kananga, indique cette dame rencontrée devant son dépôt.
Le maïs, on n'en a pas dans le dépôt. Il y a juste du maïs ramené par le transporteur à vélo. Nous avons beaucoup de difficultés.
Les quelques maïs visibles viennent de l'interland de la ville de Kananga et sont amenés par les transporteurs à vélo communaux appelés Bayanda, comme l'un d'eux explique.
Quand nous allons pour acheter du maïs, je peux prendre 50 mécas ou mesurettes. Quand je vais peux revendre ici, cela peut me donner 60 mesirais.
60 mecas.
Pour les comités de demandeurs de maïs, cette situation va au-delà de la SNCC qui explique n'avoir pas de gros moyens pour remettre le chemin de fer en bon état et arrêter les érosions qui attaquent la voie ferrée. Le gouvernement central doit s'impliquer, souligne le vice-président Hubert Tumbazigida.
Le gouvernement connaît bien qu'il n'y a pas de bon chemin de fer, qu'il y ait d'abord l'entretien de chemin de fer.
Entre-temps, la population dit craindre voir le maïs augmenter de prix si la solution n'est pas trouvée et aussi si cette période d'abondance de maïs de l'Interland finit. De Kalanga, François Kadima, Radio Kapi.
Autre nouvelle, Kinshasa accueille à partir de ce mardi 28 mai un colloque international axé sur le concept Une Santé, One Health. Ces travaux, organisés sous les auspices du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, visent à innover les moyens de prévention des maladies infectieuses et transmissibles de l'homme à l'animal et de l'animal à l'homme. Des experts de quatre coins du monde sont attendus. Ce colloque qui va se clôturer le jeudi 30 mai à l'Institut National des Recherches Biomédicales, INERBE, s'inscrit dans la perspective de la mise en place de l'Institut One Health pour l'Afrique à Kinshasa. Cet institut succède au Master d'écologie des maladies infectieuses de la Faculté de médecine 10 ans après sa création. L'Institut One Health pour l'Afrique est placé sous la direction du professeur et docteur Jean-Jacques Mouyembe Tamfoum, assisté du professeur Didier Bompangé. Le recteur de l'Université de Kinshasa, professeur Jean-Marie Kayembe, salue l'organisation d'un tel événement.
Actualité internationale.
L'armée égyptienne annonce l'ouverture d'une enquête concernant la mort d'un garde frontière hier dans des tirs à la zone frontalière de Rafah. C'est entre l'Égypte et la bande de Gaza où sont déployées des forces israéliennes. L'armée israélienne dit pour sa part examiner cet incident, faisant état des discussions en cours avec les Égyptiens. Notez que l'armée israélienne mène des opérations militaires accompagnées de bombardements depuis le 7 mai dans Rafah, ville du sud de la bande de Gaza à la frontière avec l'Égypte.
L'invité.
L'image du député national aujourd'hui est ternie par les 21 000 à 33 000 dollars qu'il toucherait chaque mois au détriment de la population qui croupit dans la misère. Pour réhabiliter l'image de l'Assemblée nationale et restaurer le député dans son honneur et sa dignité, le coordonnateur du bureau de liaison de la CENCO avec le Parlement plaide pour l'instauration d'une démocratie participative afin d'amener le Parlement à travailler réellement pour l'amélioration des conditions de vie de la population. Maître Jean-Paul Moulianga, invité de Radio Kapi, s'entretient à ce sujet avec Michel Kifindangoy.
Maître Jean-Paul Moulianga, bonjour.
Bonjour, monsieur Michel Kifinda.
Le nouveau président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, se donne comme défi de réhabiliter l'image ternie du député et de restaurer l'Assemblée nationale dans son rôle de temple de la démocratie parlementaire. Dites-nous, à votre avis, quels sont les faits qui ont conduit l'opinion à ternir l'image du député national?
Merci beaucoup pour la question. À notre humble avis, les députés nationaux ont justement, par leurs agissements, ils se sont de plus en plus éloignés des préoccupations de la population pour se concentrer sur leurs intérêts personnels ou de leurs mouvances politiques. Ipso facto, il s'est créé un fossé béant entre eux et la population. Nous allons croire que le président Vital Kamerhe, en parlant de cette réhabilitation de l'image ternie, justement, ça tourne autour du rapprochement des élus avec les populations qui les ont mandatés.
Pourquoi pensez-vous que l'Assemblée nationale de la dernière législature n'a pas joué le rôle tel qu'attendu par la population?
Les élus se sont plus préoccupés de leurs intérêts personnels ou politiciens. Ils ont fait cela sous l'oreille pour prendre des mesures, par exemple, qui pouvaient réduire les trains de vie de l'État. On en parle, mais rien n'est fait entre-temps. Ils n'ont pas pris les actes législatifs pour réduire ces trains de vie de l'État qui prend une large part du budget national pour des dépenses de fonctionnement des institutions politiques. C'est tout ça qui a créé les fossés béants dont j'ai parlé, d'inégalité sociale entre les souverains primaires, mandataires et ces mandants qui sont les représentants.
Que devrait faire en priorité le nouveau bureau de l'Assemblée nationale pour permettre à la Chambre basse de jouer réellement le rôle que le peuple attend de lui?
Concrètement, nous pensons que le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, a déjà annoncé que son bureau veillera à la ponctualité et au travail effectif des élus du peuple sur les dossiers qui préoccupent notre nation. Nous pensons que la mise en branle des commissions, on avait créé 3 commissions, je crois, de nouvelles commissions, et une commission semble beaucoup nous intéresser. C'est la commission qui est chargée du suivi de l'application, décision même de l'Assemblée nationale, et des lois qui intéressent la population, donc qui intéressent la vie des populations qui rencontrent les desiderata et les attentes de la population. Mais aussi réhabiliter vraiment le contrôle parlementaire. J'ai entendu certains amis parler d'un ministre, le ministre de l'économie nationale, qui avait été contraint à la démission, et d'un PDG, je crois la SNEL, mais c'est pas suffisant. Nous voudrons que les bureaux puissent permettre aux élus de mener des enquêtes parlementaires et que les résultats de ces enquêtes soient accessibles à la population et que, en cas de manquement constaté, qu'ils puissent avoir des sanctions appropriées. Les nouveaux bureaux devraient aussi éviter le musellement de l'opposition politique, quoique celle-ci soit minoritaire.
Vous insistez sur la nécessité pour l'Assemblée nationale d'instaurer une démocratie participative en République démocratique du Congo. Très concrètement, que devrait-elle faire pour que cette démocratie participative soit une réalité dans notre pays?
Merci beaucoup pour cette très intéressante question. D'abord, il faut qu'on ait un même entendement de la démocratie participative, parce que nous avons là, avec l'Assemblée nationale, les assemblées provinciales, les conseils locaux, nous avons une démocratie représentative. Et la démocratie participative ne vient pas chasser la démocratie représentative. Elle vient juste compléter pour que celle-ci soit plus efficace dans le sens de trouver des solutions aux problèmes de la population. Et quoi de mieux, associer cette population justement qui connaît ces problèmes dans les réflexions. Nous, au niveau de la CENCO, nous travaillons sur le cadre des concertations, d'échanges, population, élu autorité, je crois depuis 2009, nous pensons que l'implication du Parlement à la redynamisation des cadres d'échange population élu autorité autour des questions prioritaires des communautés et même d'élaboration des cahiers des charges destinés aux décideurs de l'exécutif pourra renforcer les capacités de la population à exiger la redevabilité de ces autorités, de ces élus dans l'exercice de leurs missions respectives. Et cela pourra aboutir à un processus de prise de décision, de conception, d'élaboration et d'adoption et voire de promulgation des lois qui prendront en compte les aspirations profondes de la population. Et aussi même à susciter des missions de contrôle parlementaire directement demandées par la population à ses élus lorsque ceux-ci vont en consultation ou descendent à la base.
Maître Jean-Paul Mulianga, je vous remercie.
C'est à moi de vous remercier, cher Michel. Merci beaucoup.
Et c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi.